Salut à tous et bienvenue dans Wedding Podcast, je suis Sébastien Cabanès, photographe et vidéaste de mariage, et j'explore pour vous différentes thématiques autour du monde du mariage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Podcast. Aujourd'hui, on va parler de cérémonie laïque avec Christelle et Yacine de À Demain Tenant. Salut Christelle, salut Yacine.
Salut.
Alors la cérémonie laïque, c'est quelque chose que nous, prestataires du mariage, on connaît plutôt pas trop mal. Enfin, on a l'habitude, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas trop connu du grand public. Enfin, on sait pas trop. Du coup, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, présenter depuis quand vous faites ça, comment vous en êtes arrivés à faire ça un peu, parce que on tombe pas comme ça dedans comme ça d'un coup, je sais pas.
Ou pas.
Ouais, je sais pas. Alors, dites-moi un peu comment vous en êtes arrivés à faire ça.
T'as combien de temps devant toi?
J'ai 4h45.
Bon, ça va. Tout a commencé un beau jour par moi, en fait. Tout a commencé en 2003, en ce qui me concerne. Puisqu'à cette époque-là, je préparais mon mariage dans une ancienne vie. Et je ne voulais pas aller à l'église, mais je ne voulais pas aller qu'à la mairie. Donc, dans mes préparatifs, je suis tombée sur un bouquin. Par hasard, un bouquin de Florence Servan-Schreiber qui s'intitule « Comment organiser sa propre cérémonie de mariage ». Et j'ai fait « Waouh, ça c'est génial, c'est ça que je veux ». Et donc après, bah, comme toute future mariée qui se respecte, je cherchais des informations sur Internet pour préparer mon mariage. J'étais sur auféminin.com, un super forum de la mort qui tue.
Que je ne connais pas.
Ouais, il a... Voilà. Mais à l'époque, tout le monde était sur auféminin.com. C'est ça, c'est ça.
C'est l'instant vieux.
C'est ça, c'est l'instant nostalgie. Et en fait, j'ai cherché d'autres filles comme moi qui faisaient ce type de choses. Et puis, on n'était pas très, très nombreuses, hein, vraiment pas beaucoup. Donc, on a créé une espèce de petite communauté sur ce forum. J'ai cherché énormément d'informations sur Internet, mais il n'y avait rien. Du tout. À part en Belgique, où on parlait des centres d'action laïque qui faisaient des cérémonies laïques pour les mariages avec le bourgmestre, etc. Donc à la mairie, tout simplement. J'ai acheté le bouquin. J'ai créé ma propre cérémonie à partir du bouquin, à partir des infos que j'ai trouvées. J'ai glané pas mal d'infos à droite à gauche. Et ensuite, j'ai tout mis en forme sur un forum et un site internet qui s'appelle Les Laïciennes. Et donc, je suis tombée dans la cérémonie laïque à ce moment-là. Et après, bah, de fil en aiguille, de 10 nanas qui organisaient leur mariage avec une cérémonie différente, on est passé à 200, 300 au cours des années. Et ensuite, on nous a demandé si on connaissait des officiants pour faire des cérémonies laïques. Donc, je recevais des mails de wedding planner. Et donc, on a commencé, on a proposé nos services au sein d'une association qui s'appelait S'engager autrement. Et puis après, voilà, la vie a fait que je me suis séparée. J'ai recroisé la route de monsieur par la suite.
On ne sait pas si c'est une bonne idée, mais enfin bon.
En tout cas, il a apporté...
En tout cas, c'est fait, quoi.
Il a apporté à ma passion une structure commerciale que je n'avais pas. Et il est tombé un peu comme Obélix, il est tombé dans la cérémonie laïque à ce moment-là et il n'en est pas ressorti.
C'est quoi le parallèle avec Obélix ?
Pas parce que t'es tombé dedans et t'en es plus ressorti.
D'accord. Ah. Non, c'était juste comme ça.
Ouais, voilà. Très bien. Donc, on a créé À Deux Maintenant en 2010.
Et donc, aujourd'hui, vous faites tous les deux des cérémonies laïques.
Oui. Ah, moi, j'ai pas le droit de me présenter. on est d'accord ? Non, c'est juste pour savoir. C'est...
Alors, vas-y. Alors, Yacine. Parle-nous de...
Non, parce qu'il a une vie intéressante c'est aussi juste, avant. Juste...
Non, mais parce que comme elle avait l'air d'avoir fini...
Non, sinon, je peux aller chercher des pains au chocolat et des croissants dans une autre boulangerie, parce qu'à Arles, il n'y a pas... Pardon. Alors, concrètement, moi, j'ai 1500 ans, donc je ne vais pas revenir sur les 1490 dernières années, parce que je sais que ça fera le sujet d'un prochain podcast, que vous aurez donc l'honneur et la chance d'entendre très prochainement sur vos ondes.
À Brèche.
Par contre, sur les 10 dernières années, effectivement, quand j'ai retrouvé Christelle, qui m'a présenté son concept... ça correspondait absolument parfaitement à l'être que je suis et en tout cas ce que les 1490 dernières années de ma vie m'ont permis d'être et de devenir et donc je me retrouve absolument merveilleusement dans toutes les valeurs de la cérémonie et depuis bah, j'en suis plus jamais ressorti. C'est bon Sébastien, tu peux reprendre la parole.
Merci. Je sais plus du tout où j'en étais, mais c'est pas
présenté Sébastien.
J'adore ce que vous faites vraiment. Et donc, vous faites tous les deux des cérémonies, maintenant que Yacine s'est présenté. Et,
merci.
Voilà. Et comment les gens, c'est un truc que je me suis posé comme question, comment les gens, est-ce qu'ils choisissent entre vous deux? Est-ce que c'est vous qui voyez? Comment ça se passe?
Alors, très concrètement, Pendant pas mal d'années chez Ade Maintenant, mon numéro de téléphone était premier présent sur le site internet.
Le seul.
Voire même le seul pendant quelques temps. Donc c'est vrai que les mariés me contactaient, et comme on le sait tous, le premier feeling est vraiment vraiment important, ce première sensation qu'on peut avoir au téléphone est vraiment important, et du coup bah, les mariés, quand je parle pendant une demi-heure avec eux, que je leur présente ma vision, que je leur explique un petit peu qui je suis, et qu'à la fin je leur dis « mais voilà, si vous voulez je peux vous présenter Christelle bah », forcément les mariés me disent mais non, ça se passe super bien, vous avez l'air super sympa, c'est vous qu'on veut ». En fait, c'est vous, hein? On s'en fout de Christelle. Voilà. Donc après, ce qui se passe.
Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment.
C'est parce qu'il va. C'est parce qu'on n'a pas eu le premier rendez-vous rencontre et qu'ils n'ont pas rencontré Christelle. Voilà, surtout. C'est, ça, voilà. c'est surtout ça. Donc après, une fois qu'on a la chance donc, de pouvoir. qu'on a la possibilité bah, de faire des rendez-vous à deux, bah, à ce moment-là, effectivement, c'est un vrai dilemme pour les mariés de se dire bah, on choisit Christelle ou on choisit Yacine, en sachant qu'on a quand même deux façons d'officier qui sont quand même clairement différentes, qu'on a deux natures aussi différentes, même si la vision est la même, même si le travail est le même. Voilà, donc ce sont des choses qui quand même permettent d'orienter vraiment les mariés vers l'un ou vers l'autre.
Et vous avez fait combien de cérémonies laïques? J'imagine énormément, mais je me suis posé la question.
Alors, depuis la création d'Ade Maintenant, on va dire que cet été, on a fait notre 650e cérémonie.
Ah merde.
Ça pique.
Ouais, ça pique, ouais.
Merci.
Voilà, d'accord, bah, félicitations. Et alors, là on a parlé de cérémonie, c'est vrai que moi je sais ce que c'est, on en a fait plein ensemble, tout ça, mais comment vous définiriez une cérémonie laïque? Une cérémonie laïque, c'est quoi?
Alors en fait, une cérémonie laïque, c'est une cérémonie d'engagement.
J'ai toujours pas compris.
Ouais, non, moi non plus.
Une cérémonie d'engagement parce que le mariage, c'est un engagement. Donc en fait, une cérémonie laïque, c'est une cérémonie qui va permettre au couple de s'engager à sa façon, de manière très personnelle. Parce que la cérémonie laïque principale qui existe, c'est la cérémonie à la mairie, puisqu'on est vraiment sur le concept de la laïcité le plus pur. Donc tout le monde fait une cérémonie laïque en passant par la mairie.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc pour ça, on différencie aussi un petit peu dans notre manière de parler en parlant beaucoup de cérémonie d'engagement.
Oui, parce que moi je dis cérémonie laïque, mais c'est peut-être pas le bon mot.
En fait, c'est le terme qui a été utilisé dès le départ, mais il a une... Malheureusement, le terme laïque a une connotation aujourd'hui qui en fait quelque chose qui est en totale opposition avec la partie religieuse, alors qu'en fait la laïcité, la définition de la laïcité dans le plus pur sens du terme, c'est l'acceptation de l'autre dans sa croyance, dans sa non-croyance. Donc vraiment c'est une ouverture à tout et à tous. Souvent quand on va utiliser le terme de cérémonie laïque, il y a certaines personnes qui vont se retrouver un petit peu refroidies par ce terme, parce que justement ils vont se dire alors qu'en fait on a des cérémonies qui sont très spirituel parfois, on a des catholiques, on a des cultures très différentes, donc pour le coup, on n'a pas vraiment, on n'est pas anti-religion.
Donc, ça c'est un peu de notre faute, et on a cette fierté d'avoir été vraiment parmi les premiers à avoir vraiment structuré la cérémonie laïque en France, donc là on se dit waouh quand même, si aujourd'hui il y a des cérémonies, c'est un peu, entre guillemets un peu, parce qu'on n'a rien inventé, que oui, n'importe qui aurait pu faire après, mais c'est un peu grâce à nous, et d'un autre côté on se dit merde. On n'aurait peut-être pas dû appeler ça cérémonie laïque, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit cérémonie laïque, là où tout de suite on aurait dû dire cérémonie d'engagement, et quelque part on se sent du coup aussi un peu fautif que ça s'appelle comme ça. Mais bon, ça, c'était
ça venait aussi par rapport à ce qui existait déjà, et notamment en Belgique, comme je disais tout à l'heure, avec les centres d'action laïque, qui étaient vraiment, mais qui se passent vraiment au sein de la mairie, avec le bourgmestre. Donc à partir de là, on est vraiment sur la définition de la laïcité pure.
Ouais. Donc, sans étymologique du terme, mais pas...
Au-delà de ça, la cérémonie d'engagement pour un mariage ou pour un parrainage ou pour tout autre événement de la vie, parce que ça peut aussi fonctionner pour tout autre événement de la vie, c'est un engagement, c'est une cérémonie qui va être symbolique, au même titre qu'une cérémonie religieuse finalement, puisqu'il n'y a que la cérémonie civile qui est légale.
Oui, parce que c'était ma prochaine question, mais ça n'a aucune valeur légale du coup.
Aucune. De même que l'église, on est obligé de passer par la mairie pour se marier à l'église. Ce qui n'est pas le cas pour une cérémonie d'engagement, puisqu'on peut très bien en faire une, même si on ne va pas à la mairie. Donc, oui. Le concept, c'est j'ai envie de faire un moment personnalisé où je m'engage avec mon autre, mon compagnon, ma compagne. J'ai envie d'un moment à deux. J'ai envie d'un moment avec plein de monde, j'ai envie que ça ressemble à un mariage avec tous les codes, où j'ai juste envie de faire ça sur une plage, où j'ai juste envie de faire ça après une randonnée de 6 heures et de faire ça au coucher du soleil en haut d'une montagne. Je m'engage de cœur à cœur.
Ouais.
Prendre le temps. Moi, c'est souvent ce que je dis à mes mariés, c'est voilà, dans une journée de mariage qui passe à une vitesse complètement folle, pouvoir se poser. Et pouvoir se dire, c'est maintenant, voilà, c'est maintenant, c'est, on prend le temps de pouvoir s'engager l'un vers l'autre, comme vient de le dire Christelle. Un moment de partage, un moment de sincérité, un moment de pure personnalisation, puisqu'il n'y a pas une cérémonie qui va être identique à une autre. Toutes les cérémonies sont différentes, toutes les cérémonies sont uniques. Et c'est vrai que prendre le temps, ça n'a pas de prix, parce que c'est une journée de mariage, c'est tellement rare, c'est tellement fort, qu'on a quand même besoin d'avoir ce moment qui nous ressemble vraiment.
C'est une occasion unique. En fait, on se rend compte depuis longtemps déjà que les gens, on ne prend pas le temps de se dire ce qu'on ressent. Même des fois, dans certaines familles, ça ne se fait pas de dire ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve, de dire qu'on s'aime, d'éprouver des émotions, de les exprimer. La cérémonie va permettre de faire passer ce message-là. Et comme je le dis souvent à mes mariés, peut-être un peu de manière brutale, c'est un peu con d'attendre d'être devant une boîte fermée pour dire à la personne qu'on l'aime.
Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai.
Et le mariage est un événement magnifique où on peut réunir toutes les personnes qui nous sont proches et où on peut prendre justement ce moment-là, saisir cette occasion de se dire qu'on s'aime, ce qu'on ressent, que ce soit avec son conjoint ou avec les interventions des proches, les parents, les amis, la famille. Et des fois, on voit des trucs un peu magiques qui se passent où t'as des papas, par exemple, qui... Voilà, ça se fait pas, c'est pas dans leur nature, et pourtant ils vont pleurer, ils vont prendre leur fils dans leurs bras. C'est pas des grandes déclarations, on n'ouvre pas les tripes, on met pas tout sur la table, ça dégouline pas, mais ça vient du cœur.
Oui, parce que c'est vrai que moi, pour en avoir vu souvent, souvent je suis étonné que les mariés me disent « mais il m'a jamais dit ça avant ». Et enfin, je trouve ça un peu, c'est à la fois beau et à la fois un peu triste qu'ils attendent ce jour-là pour le dire, mais... Mais oui, c'est pour ça que les gens font des cérémonies laïques, enfin, parce que sinon ils se diront peut-être jamais ce genre de truc, je sais pas.
Et ce qui est encore plus surprenant, pour rejoindre aussi ce que tu posais comme question tout à l'heure, c'est qu'en fait ces cérémonies qui sont absolument pas officielles, donc on peut se dire, bon bah on s'en fiche.
Et pas obligatoire, enfin je veux dire.
Absolument pas obligatoire. Ces cérémonies, une fois qu'on les a vécues, on se dit mais... comment on aurait pu faire sans les vivre, finalement. Et ça n'a rien d'officiel, ça n'a rien d'obligatoire. Et quand on sort de ce moment, on a vraiment cette sensation d'engagement, cette sensation de partage avec les invités, cette personnalisation d'avoir ce moment qui nous ressemble, cette sincérité avec tous ces mots sortis du fond du cœur qui ont été dits. Et waouh! Et pourtant, pourtant, 650 cérémonies plus tard, on se dit waouh! J'ai toujours cette surprise de se dire, ben voilà, c'est pas obligatoire, mais pourtant, quand on le vit, on se dit, mais c'est indispensable.
Ouais. Et alors, une question, enfin, un truc que les gens me demandent parfois en rendez-vous, c'est est-ce que ça remplace une église?
Il n'y a rien qui remplace une église. Il n'y a rien qui remplace la mairie.
Parce que souvent, les gens... souvent, je ne sais pas si vous ressentez ce truc-là, mais moi, des fois, les gens me disent « Ouais, on ne va pas à l'église, alors du coup, on va faire une cérémonie laïque. » Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont obligés de faire un deuxième truc. Et je leur dis « Si vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas le faire. » Mais je pense que ça ne remplace pas une église. C'est une autre cérémonie, quoi.
Le mariage religieux, c'est un acte de foi.
Un sacrement.
Donc à partir de là, si les mariés sont croyants, pratiquants, que ça a du sens pour eux, ils vont se marier à l'église.
Bien sûr.
Que ce soit le même jour que la fête ou pas, ils vont se marier à l'église. Ce qui était un petit peu courant, et qui l'est encore de temps en temps aujourd'hui, mais à l'époque de nos parents par exemple, qui n'étaient pas forcément extrêmement croyants, mais c'était la tradition. On se mariait à l'église. Alors parce que voilà, quoi, il n'y avait que, si on avait fauté avant, on n'allait pas se marier à l'église, donc on n'allait que à la mairie, et on sent qu'il manque quelque chose. À la mairie, on est sur quelque chose de purement administratif, c'est un contrat.
Et puis c'est court, hein.
Ça dure 15 minutes à tout casser, on va dire en moyenne. C'est un contrat, c'est-à-dire que c'est un pax amélioré. Vous avez le droit d'avoir des témoins et des gens qui sont là. Mais sinon, c'est la même chose, c'est un contrat que l'on signe. On s'engage à respecter la loi, les droits, les devoirs du couple, basta. À aucun moment on parle de cœur, d'amour, de relations. Le mariage religieux, c'est un acte de foi, mais là encore, on ne va pas parler du couple. On va parler du couple à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus grand, de l'amour divin, etc. Et ça ne...
Oui, c'est un autre truc.
C'est un autre truc. Ça ne pose pas l'histoire du couple. Voilà, c'est quelque chose de différent. Aujourd'hui, quand on a des couples qui vont se marier qu'à l'église, effectivement, il y a des prestataires qui vont leur dire ah, « Pourquoi vous ne faites pas une cérémonie laïque ?» Bah parce qu'effectivement, c'est un peu triste, entre guillemets, de faire que la mairie et de partir ensuite juste faire la fête. Mais t'as des couples à qui ça correspond très bien.
Oui, bien sûr.
Et puis, il y a ceux qui ne connaissent pas encore le concept de la cérémonie, et puis qui vont peut-être tout chambouler leur organisation pour en faire une. Et puis, tu vas avoir ces couples qui vont faire la mairie, qui vont faire l'église et qui vont faire la cérémonie laïque.
Oui, parce que moi, je l'ai déjà fait, où il y a eu 3 cérémonies dans la journée. Alors c'est vrai, quand on me l'a dit au début, je me suis dit, non, mais pourquoi ils ne font pas l'un ou l'autre? Mais en fait, une fois que tu l'as vécu,
c'est complémentaire.
C'est complémentaire. C'est ce que vient de dire Christelle, c'est le mot que je voulais sortir depuis tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment une complémentarité. Ouais, non, tu parles pas trop, ça va. Il y a vraiment une complémentarité qui se fait par rapport à l'église et à la cérémonie laïque. On n'est pas du tout en concurrence, on n'est pas du tout. Moi, souvent, on me dit, alors attendez, j'ai pas bien compris. Vous êtes prêtre, diacre?
Ce qu'il faut savoir, c'est que Yacine a toujours rêvé d'être un prêtre, donc aujourd'hui il est faux prêtre, mais bon, il fait ce qu'il peut, quoi.
C'est ça. Après, sexuellement, malheureusement, j'ai m'orienté vers la laïcité. Mais du coup,
j'en peux plus.
Du coup, voilà, on a une complémentarité vraiment entre la religion et la cérémonie d'engagement. Voilà, c'est vraiment une complémentarité.
C'est vrai que sur une seule et même journée, ça peut paraître très lourd de faire les 3 cérémonies. Ouais, même pour les invités, ouais, ça fait beaucoup. Donc souvent, nous, ce qu'on conseille à nos mariés, c'est de scinder, de faire peut-être la mairie et l'église en petits comités et de garder la cérémonie avec tous les invités le jour de la réception. Après, moi, j'ai eu des mariés que j'avais rencontrés en salon du mariage qui m'avaient dit « Non, nous, de toute façon, ça sera cérémonie à l'église. » On a discuté. Elle a eu envie de faire une cérémonie laïque en plus. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la mairie en petit comité, puis on a eu l'église et la cérémonie laïque derrière.
C'est sûr, 2 cérémonies, ça suffit.
Enfin, voilà. Donc, forcément, quant à ça aussi, eh ben, tu vas encore plus réfléchir à ne pas donner l'impression de faire une deuxième cérémonie identique. Parce que souvent, l'image que les gens ont, quand on te dit ça remplace
la
cérémonie à l'église, c'est parce que tu as des codes qu'on va reprendre, le cortège, les alliances, etc. Chose que tu ne feras pas si tu passes à l'église juste avant, puisque les alliances, elles ont été dans le sacrement, donc généralement les mariés ne les retirent pas, donc on va faire autre chose, on va casser les codes, on ne va pas avoir de cortège, peut-être que les mariés vont arriver tous les deux main dans la main, parce qu'ils sont de toute façon déjà mariés.
Oui,
donc voilà, mais c'est une manière de personnaliser encore plus leur cérémonie.
Et moi, il y a un truc que, je dis souvent aux mariés, c'est que souvent ils me disent ouais, mais pourquoi les gens ils font une cérémonie laïque et quand ils peuvent aller à l'église. Mais en fait, je trouve que si les mariés sont pas croyants, comme tu disais, si ça n'a pas de valeur pour eux, finalement, il vaut mieux faire une cérémonie laïque, parce qu'en plus, ça sera personnalisé. Vous aurez vos amis qui. Enfin, moi, c'est ce que je leur dis, vos amis vont parler. Si la cérémonie à l'église a une valeur pour vous, c'est bien. Mais si c'est pour aller vous faire chier à l'église, concrètement, il vaut mieux organiser une belle cérémonie laïque où vous entendrez vos proches. Enfin...
Moi, j'ai une pensée toute tendre à toutes mes mariées qui m'écoutent et que, entre guillemets, on a, entre guillemets, bon, vraiment le mot est fait un peu fort, mais converti à la cérémonie laïque. C'est-à-dire que ce sont des mariées qui voulaient absolument aller à l'église et qui sont allées à l'église et qui ensuite ont fait une cérémonie. Mais au départ, se posaient simplement la question de ce qu'était en fait une cérémonie. Donc vraiment, déjà, un grand bisou à toutes ces filles et tous ces mariés, évidemment, et tout court. Mais voilà, c'était pour moi, je trouve que la cérémonie, elle est formidable par rapport à ça, parce qu'on est vraiment en complément, encore une fois. On a énormément de mariés qui sont très croyants, qui ne peuvent pas aller à l'église. On a des mariés qui sont très croyants, mais qui ont quand même envie d'avoir ce supplément d'âme avec cette personnalisation, cette sincérité, ces mots qui sortent du fond du cœur, et c'est tellement important pour eux. On a des mariés qui sont de confessions différentes, donc des mariages mixtes.
Ça
donc,
m'arrive
du
beaucoup,
coup, bah, on ne peut pas avoir, se marier à la mosquée et puis juste après aller se marier à l'église. Donc du coup, on peut faire une cérémonie d'engagement. En fait, ce que je trouve, moi, extraordinaire dans ces cérémonies, c'est vraiment ce respect. Voilà. Nous, on a un respect incroyable pour toutes les croyances et c'est vrai que du coup, on, en termes de personnalisation, on va justement aller au bout avec nos mariés et on va justement essayer de mettre en avant le mélange. Et finalement, c'est bien ça le mariage, c'est le mélange.
Ce qui est intéressant de voir, c'est comment peuvent réagir des pratiquants très croyants et des personnes qui ont cette tradition. On va reprendre simplement l'exemple chrétien, donc la tradition chrétienne.
Oui, parce
dans
qu'on
toutes
parle
les familles.
D'église depuis tout à l'heure, mais on,
voilà. Mais on va rester sur ça parce que c'est peut-être ce qui parle le plus dans notre pays. Moi, je me souviens très très bien pour mon premier mariage, quand on a annoncé qu'on allait faire une cérémonie, la grand-mère de mon ex-mari a fait une crise de nerfs en disant qu'elle ne viendrait pas parce qu'on n'allait pas à l'église, sachant que à part la messe de minuit, c'était le seul moment où elle allait à l'église. pour les mariages et les enterrements. Bon. Et ce qui est le cas de...
Oui, beaucoup.
Énormément beaucoup de personnes. On est catholique, mais on n'est pas forcément croyant, encore moins pratiquant. Et finalement, elle a accepté de venir parce que sa meilleure amie, qui était très croyante et très pratiquante, et qui faisait le catéchisme, etc., lui a fait comprendre que si elle, ses enfants, décidaient de ne pas se marier à l'église, bah, elle irait quand même au mariage parce qu'elle n'allait pas leur imposer sa foi. Donc elle est venue. Tout le monde a trouvé le mariage super. Et j'avais dans l'assistance deux personnes, une protestante, une catholique, très croyante, très pratiquante, et à qui j'avais parlé de mon projet de cérémonie, qui m'avait dit « Mais c'est génial parce que enfin, vous allez faire quelque chose qui vous ressemble. Il n'y a pas d'hypocrisie. Enfin, moi, je respecte la croyance des autres. Je respecte les églises. Aller mentir dans une église, ça ne me branchait pas. Aller dire que j'allais conformer ma vie selon les principes du catholicisme, ça ne me branchait pas. Mon ex-mari était anticlérical, incroyant. Ouais, j'avais pas l'intérêt. Je ne suis pas baptisée catholique, mais j'ai mes croyances. Donc forcément, on ne se retrouve pas là-dedans. À un moment donné, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et même les personnes qui assistent et qui sont au départ assez réfractaires à cette idée, à la fin de la cérémonie, viennent nous voir en disant « Waouh !» Ah ouais, il y en a même qui vont dire « Ah, c'est quand même mieux que l'église !» Et puis il y en a d'autres qui vont dire « Waouh, c'était beau, c'était personnalisé. Ouais. C'était leur histoire qu'on a racontée. » Donc forcément, ça leur plaît.
Et donc là, on a parlé un peu du concept de cérémonie d'engagement. Je vais essayer d'arrêter de dire cérémonie laïque, du coup. Et comment on construit une cérémonie comme ça avec les mariés ?
Alors, nous, on a un principe, c'est qu'on est, on essaie de mettre vraiment en avant la personnalisation de la cérémonie. Donc, dans le travail, entre guillemets, il y a plusieurs étapes. Pour construire une cérémonie, déjà, bah, y a un rendez-vous rencontre avec les mariés qui est absolument impératif pour tester justement le feeling, vérifier, voir si on s'entend sur la vision qu'on a commune, sur la tonalité aussi un petit peu de la cérémonie, vérifier aussi que le feeling passe bien, parce que qui dit cérémonie personnalisée dit qu'il va falloir qu'on apprenne à se connaître l'un et l'autre, les uns et les autres, ce qui fait que moi j'ai besoin d'être vraiment en accord parfait avec mes mariés, et évidemment les mariés doivent se sentir en accord parfait avec moi. Donc ça, c'est vraiment vraiment important. C'est un rendez-vous qui peut être long parce que on va apprendre un petit peu déjà à se connaître, et ça, c'est vraiment important. Une fois qu'on a franchi cette barrière et que ben voilà, on sait qu'on est fait pour s'entendre, il y a la création de la cérémonie, il y a une phase écrite qui peut se faire, puisqu'il y a la possibilité d'envoyer pourquoi pas des questionnaires aux mariés. Il y a des questionnaires à remplir ensemble, un amoureux, puis il y a des questionnaires à remplir séparément, sans copier sur le voisin, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, mais ce qui nous permet, nous, de pouvoir justement appréhender et de mieux cerner le couple de façon individuelle, et du coup de pouvoir réfléchir aussi à ce qu'on pourrait ajouter et créer pendant la cérémonie, voir des choses qui les touchent, voir des passions communes, voir des choses qui ressortent un petit peu de ces questionnaires et qui nous permettent de leur faire des propositions actives et de leur dire j'ai repéré ça dans les questionnaires, qu'est-ce que t'en penses, j'ai l'impression que c'est très important pour vous, comment est-ce qu'on pourrait le matérialiser pendant la cérémonie. Et après, de notre côté, une fois qu'on a ce retour du questionnaire, il y a vraiment toute la phase de création qui attaque, et il y a autant de rendez-vous que nécessaire. C'est vrai que plus on va faire de rendez-vous, plus on va voir nos mariés, plus on va s'ouvrir avec eux, plus on va créer du lien, plus ils vont se détendre et plus ils vont parler de choses un petit peu plus personnelles, ce qui va permettre de personnaliser encore plus. On a souvent des mariés qui nous contactent quelques jours avant la cérémonie en nous disant « j'ai vécu une cérémonie il y a 15 jours, c'était formidable et j'aimerais faire une cérémonie. Ah, super, vous mariez quand ?» La semaine prochaine. Bon. Donc, en quelques jours, on peut créer une cérémonie. Par contre, ce qu'on peut difficilement créer en quelques jours, alors qu'on peut vraiment le faire en plusieurs mois, puisqu'on a déjà des cérémonies, évidemment, en 2020, 2021, 2022, qui est en train de taper aux portes, ce qu'on peut créer en quelques mois, c'est vraiment le lien. Et c'est vrai que chez nous, en tout cas, Christelle et moi, c'est une évidence, on a un besoin viscéral de créer du lien avec nos mariés. Et on préférera refuser une cérémonie qui va se faire en quelques jours parce qu'on a besoin de créer du lien. Voilà, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est justement d'échanger, d'apprendre. Et ça, c'est fabuleux et c'est fascinant de pouvoir s'enrichir un petit peu de tous nos mariés, de leurs traditions, de leur religion, de leurs coutumes, de leur famille, etc. Parce que chaque personne est différente et on s'enrichit vraiment de chacun de nos couples, et du coup on a besoin de temps nous pour assimiler, on a besoin de temps pour transcrire, pour transmettre, et du coup il y a autant de rendez-vous que nécessaire.
Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question, il y a combien de rendez-vous du coup pour faire
ça ? On va dire qu'en moyenne on va tourner sur 3-4 rendez-vous pour la création
de la
cérémonie.
Le minimum c'est 3.
3 minimum, ça c'est oui. impératif. Mais après, j'ai des rendez-vous que je rencontre, j'ai des mariés que je rencontre 10-15 fois.
Ouais,
des...
c'est parce que c'est plutôt ce que j'ai l'impression. Des fois, tu parles de 3-4.
Des fois.
C'est ça, je dis c'est le minimum.
Des fois, c'est des rendez-vous d'une demi-heure qui permettent un peu de caler quelque chose qui reste à caler.
Des fois, c'est 6 heures.
Des fois, c'est des rendez-vous de 6 heures.
J'ai plutôt l'impression qu'on est sur ça. Mais bon, enfin.
Et ça termine en pizza rosée dans la piscine à 4 heures du matin. Mais ouais, c'est vrai que c'est souvent plus 6 heures que.
Ce qui est important de voir aussi, c'est que le temps qu'on va passer à préparer la cérémonie avec ce couple, c'est aussi pour eux, et notamment par rapport à l'étape des questionnaires, qui des fois peut les effrayer un peu quand ils voient le nombre de questions, etc. Moi, ce que je leur dis toujours, c'est en fait, c'est une préparation. C'est une vraie préparation au mariage, parce que à la mairie, on ne se prépare pas au mariage, on va signer un contrat. À l'église, il y a une préparation au mariage. Qui est très spécifique, avec des retraites et des choses comme ça. C'est pas ce qu'on leur propose. On va simplement leur demander de prendre le temps aussi de se poser, de réfléchir, d'analyser et de voir un petit peu quel est leur plan de route à eux deux aussi dans les prochaines années. Parce que on sait que quand on se marie, on a des projets en commun. Est-ce qu'ils sont dans le même ordre de priorité pour chacun? Est-ce qu'on en a vraiment discuté? C'est peut-être aussi à ce moment-là l'occasion de discuter de tout ça et de se poser. On a pu voir des cérémonies s'annuler et des mariages s'annuler après les questionnaires. Parce que...
Bah, je ne te félicite pas. Enfin,
à un moment donné, je dirais peut-être que c'était mieux.
Peut-être que c'était
mieux. Parce que sinon, il y aurait peut-être eu un divorce dans quelques années et c'est guère mieux, en fait.
Oui, il y avait la question au milieu qu'il ne fallait pas poser, mais qui finalement, il fallait la poser.
Oui, mais disons que peut-être c'est tout simplement essayer de voir si on a vraiment la même vision. Et donc, moi, je prends ce temps-là aussi en me disant que c'est vraiment un accompagnement du couple et de pouvoir les accompagner dans cette étape qui ne change rien à leur quotidien, mais qui change beaucoup aussi, mine de rien.
Ces questionnaires, ils sont intéressants parce qu'il y a des personnes qui sont très prolixes à l'écrit. Et effectivement, quand on se voit, ils ont peut-être du mal à s'exprimer de façon orale. Donc c'est intéressant, ces questionnaires, parce que ça va vraiment correspondre un peu à tous les mariés. Après, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, tu vas avoir cette possibilité-là de personnes qui écrivent beaucoup et qui parlent peu. Tu as l'inverse, ceux qui vont beaucoup parler et qui vont t'écrire 3 mots.
Ouais.
Y a ceux qui répondront pas à la question, mais ne pas répondre, c'est aussi une manière de dire des choses. T'as pas envie d'aborder le sujet, c'est peut-être trop intime pour toi. Il y a des mariés qui vont ouvrir très grand la porte sur leur intimité, d'autres qui vont rester très pudiques et qui vont... C'est pas forcément pour ça qu'ils vont nous fermer, mais ils vont nous ouvrir le maximum qu'ils peuvent.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà énorme. Et des fois, avec ces questionnaires, avec un détail en cours de rendez-vous, tu vas pouvoir aussi déclencher quelque chose chez un des deux, parce que d'un seul coup, tu as peut-être trouvé la clé qu'il fallait pour lui permettre de se sentir à l'aise, parce que c'est pas simple comme exercice.
Ah non.
J'ai souvenir d'un marié qui était vraiment, qui a eu du mal à s'ouvrir pendant les rendez-vous, et puis un jour je suis arrivée en rendez-vous, et il avait un livre de David Gemmell sur la table, que je connais bien, donc j'ai commencé à parler de ce bouquin. On avait un point commun. Et là, il était parti. Il a commencé à imaginer des rituels. Et il était à fond. Mais tout simplement parce qu'il y avait ce petit détail. Ça peut être un détail que je vois en rendez-vous. Quelque chose qui va me dire. Quelque chose qui va être écrit dans le questionnaire. Et qui va nous permettre à nous d'enclencher quelque chose qui va leur permettre de se sentir le plus à l'aise possible avec nous.
Oui, parce que j'ai l'impression que... Enfin, quand moi je fais des photos ou je filme sur les cérémonies que vous faites, vraiment j'ai l'impression qu'il y a une vraie intimité avec les mariés. Et même des fois je me dis, mais comment tu arrives à un tel degré d'intimité sachant que tu les connais pas avant? Enfin, voilà.
Alors, ce qui est passionnant chez nous, en tout cas dans notre vision, c'est vraiment de créer du lien. Et ce lien, il est fort parce que aujourd'hui, dans 100% de nos cérémonies, les invités ne pensent absolument pas qu'on soit des prestataires.
Oui,
et
ça j'ai remarqué. Ouais.
Systématiquement pour soit un oncle d'Amérique qui vient de revenir mais sans la fortune, malheureusement, soit un oncle, un frère, un ami, n'importe qui. Et on donne l'impression de connaître les mariés depuis 1500 ans. Mais c'est mon âge. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ce lien qui est créé, c'est justement cette complicité. et la complicité qu'on a avec nos mariés pendant le jour J, pendant le moment présent, pendant cette cérémonie, avec tous ces petits regards, avec ces petites larmes, s'il doit y avoir des petites larmes, parce que c'est toujours une émotion. Enfin, moi, quand je vois ma mariée arriver, que ça fait depuis des mois et des mois que je prépare la cérémonie avec elle, je suis le premier à pleurer.
Donc, d'ailleurs, parce que Yacine a beaucoup d'allergies. il est connu pour ça, il a vraiment beaucoup d'allergies quand les mariés arrivent.
Et le marié en rendez-vous qui me dit, bon, moi, je me focalise sur toi parce que je sais que tu pleureras pas.
Non, ça sert à rien.
Eh ben, écoute, regarde l'arbre qui est juste à côté plutôt parce que
tu
moi, c'est mort.
Tu te trompes lourdement.
ne me regarde pas. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a ce lien et ce lien pour nous, encore une fois, il est vraiment important d'une façon personnelle. Et puis, on sait aussi que cette complicité qu'on a entre nous, par rapport aux invités, les invités vont vivre le moment encore plus fort parce que, déjà, on est pas des lecteurs, on est rarement en train de lire tranquillement notre feuille. Bonjour, bienvenue à la cérémonie de brioche et chocolat. Bon, on fait vivre le moment présent parce que ça fait depuis des mois qu'on prépare cette cérémonie avec eux. Et du coup, c'est important et voilà.
Et il y a un truc, moi, une question que je me pose, parce que là, on a parlé un peu de l'avant, mais sur la cérémonie, il y a beaucoup d'intervenants. Et qui c'est qui choisit ces intervenants? Comment on les détermine? Est-ce que c'est les mariés qui disent voilà, moi je veux que ce soit lui et lui? Est-ce qu'il y en a qui refusent? Parce que c'est un truc, une question que je me suis aussi posée. Les intervenants, comment ça se passe un peu? Parce que moi, c'est vraiment un truc que je me pose comme question. Moi, j'arrive sur le moment du mariage, ok, les intervenants sont là, c'est super, machin. Mais je me dis, ça doit être chaud avant quand même, non?
Eh ben, les intervenants, déjà, c'est les mariés qui vont les choisir, parce qu'ils sont quand même le mieux placés pour savoir qui ils aimeraient voir intervenir à ce moment-là.
C'est vrai que c'est peut-être une question con, mais enfin bon.
Voilà. Non, mais je veux dire, mais souvent, c'est aussi une question qu'ils nous posent. Et c'est aussi très important que les mariés s'investissent dans le choix de ces personnes et dans leur implication, parce que c'est vraiment pas un exercice facile.
D'autant plus que tu peux pas en mettre 70, donc déjà, tu risques de vexer quelqu'un.
Oui, alors après, je sais pas si vraiment les gens peuvent se sentir vexés, parce que quand même, comme je disais, c'est pas simple de venir parler comme ça avec son cœur, parce que ce qu'on leur demande, c'est pas de lire un texte. On leur demande pas de choisir un texte parmi une sélection et de les lire. On leur demande d'écrire quelque chose de personnel. Donc déjà, l'exercice est pas simple. Prendre la parole comme ça devant une centaine de personnes que tu connais pas, en plus parler avec ton cœur, ouais, l'exercice est vraiment compliqué. Mais c'est important que les mariés, et ça c'est vraiment, ça fait partie d'une des étapes de préparation dans le questionnaire qu'ils vont faire ensemble, de choisir ensemble les personnes qui ont du sens pour eux à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir? Des souvenirs d'enfance, des anecdotes d'aujourd'hui, de l'émotion d'une maman, ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment très important.
Il y a un choix psychologique de l'intervenant, voilà, qui est vraiment, vraiment une étape cruciale. Hein, enfin, sur les interventions, c'est vraiment une étape cruciale de la cérémonie en termes de personnalisation. Et voilà, comme vient de le dire Christelle, ce choix, nous, on leur explique au moment de la création de la cérémonie, voilà, quelle touche vous voulez avoir pendant votre cérémonie. Est-ce que vous voulez plutôt des larmes avec des personnes qui vont dire des choses très fortes? Est-ce que vous voulez des rires avec peut-être 3 dossiers, 4 casseroles, une anecdote? Voilà, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Qu'est-ce que vous voulez?
Un subtil mélange entre les deux, c'est toujours le parfait équilibre.
Oui, oui,
et
oui.
Il n'est pas simple à trouver. Et c'est vrai que les gens, ils ont un petit peu peur parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Ouais. Alors après, on va avoir des mariés qui vont nous dire, surtout lui, tu fais gaffe parce qu'il dit toujours un peu tout et n'importe quoi, donc il faudra le brider un peu.
N'importe quoi.
Il y a des personnes qui ont cette réputation qui les précède et puis qui voilà, et les mariés qui ont un petit peu peur. En général, 650 cérémonies... Si j'ai dit une fois à une personne qu'on allait peut-être éviter de parler des ex ou qu'on allait peut-être remanier un petit peu une phrase, voilà, c'est pas. Les gens, ils ont conscience quand même que c'est un moment important, parce que ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a ces coordonnées, puisqu'ils nous donnent leurs coordonnées, on va entrer en contact avec ces intervenants. On
ouais,
va
c'est
leur
ce que
expliquer.
J'allais te poser comme question, parce voilà. qu'il faut quand même.
On va leur expliquer ce qui est attendu d'eux. On va les accompagner, parce que, effectivement, c'est pas vraiment simple pour eux de le faire. On va tomber sur des gens qui sont très à l'aise, on va tomber sur des gens qui sont pas à l'aise. Il y a des gens qui vont nous dire au bout d'un certain temps, non, je me sens pas. Et puis on va leur dire, ok, très bien, pas de souci. On va pas forcer non plus, c'est pas le but. Puis peut-être que cette personne qui nous aura dit non, je me sens pas, en plein milieu de la cérémonie, finalement, va nous faire des grands signes parce que finalement, elle a envie d'eux. Donc,
ouais, une fois qu'il y en a 3 qui sont passés avant, tu te dis, bon, finalement, peut-être tu peux y aller.
Voilà, c'est des moments qui sont très forts. C'est des moments qui marquent à la fois toutes les personnes qui assistent à la cérémonie et qui la vivent, et les mariés. Il n'y a pas de regret. Ce que je dis souvent aux mariés, c'est que c'est un one shot. On ne répète pas, on ne fait pas de répétition en amont. Et même si on recommençait la même chose le lendemain, ça ne serait pas la même cérémonie. Et faut pas que les mariés aient de regrets, donc c'est pour ça que leur partie à elle est très importante. Et les intervenants, c'est pareil. C'est un moment unique à saisir aussi de pouvoir dire des choses à ces personnes qu'on accompagne, qu'on aime, nos enfants, nos cousins, nos copines, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique, mais on n'est pas là pour les forcer. Faut qu'ils se sentent le plus à l'aise possible, on est là pour les accompagner pour ça. Et en général, ça se passe plutôt bien.
Et vous les rencontrez ou pas ? Enfin, quand ils sont pas là, forcément.
Pas tout le temps.
Vous avez un regard sur ce qu'ils écrivent quand même.
C'est ce qu'on leur demande.
Nous, on est en contrôle total. Voilà. Ce qui est une surprise pour les mariés, parce que pour le coup, les mariés ne savent absolument pas ce qui va être raconté par les intervenants. Pour nous, n'est absolument pas une surprise. Donc, on est vraiment en contrôle total. Comme vient de le dire Christelle, le fait de pouvoir aider les intervenants peut-être à dire ce qu'ils ont au fond du cœur alors qu'ils n'ont pas l'habitude, le fait de pouvoir les aider à vaincre éventuellement une timidité alors qu'ils ont plein de choses à raconter, et surtout de savoir tout ce qui va être raconté, pour nous c'est vraiment un impératif. En sachant ce qui va être raconté par l'intervenant, ça va nous permettre justement de pouvoir positionner l'intervenant au meilleur moment de la cérémonie, et pas non plus d'avoir, ben voilà, allez maintenant les intervenants,
Le truc pêle-mêle quoi.
Voilà. Donc l'idée c'est vraiment de construire une histoire autour des mariés, et les intervenants sont là finalement pour ponctuer un petit peu les passages.
Et par contre, ça n'empêche pas, tu vois, alors nous, c'est vrai qu'on demande aux intervenants de nous envoyer leur texte au moins une dizaine de jours avant le jour J. Donc évidemment, on les reçoit la plupart du temps la veille, voire le jour même.
Le matin.
Il y a des personnes qui nous envoient leur texte. Il y en a des personnes qui nous envoient leur texte, et puis au moment de passer, ils ont complètement transformé le texte.
Dommage, tant pis.
Voilà. Alors après, on n'est pas tombé sur des catastrophes, on n'est pas tombé sur des textes qui n'avaient pas de sens, on n'est pas tombé sur des interventions, parce qu'encore une fois, les gens, c'est un mariage. On a discuté en amont avec eux, on les a accompagnés, on leur a expliqué ce qui était attendu. C'est pas une parodie, c'est pas un sketch, c'est pas un one-man show. Il y a de l'humour, il peut y avoir des déguisements, il peut y avoir des choses comme ça, mais il faut toujours qu'on arrive à trouver l'équilibre. Et nous, si on ne connaît pas le contenu de l'intervention de la personne, on peut pas bien la placer. On peut pas contrôler si c'est de bon ton, parce qu'il y a peut-être des fois des interventions qui ont plus leur place dans la soirée qu'en cérémonie.
Oui, ça c'est vrai, ouais.
Voilà. Et à partir de là, c'est nous qui sommes maîtres de, tu vois, chef d'orchestre, donc pour pouvoir jouer la partition comme elle doit être jouée. Et ça demande un bon doigté, mais en même temps, il faut que ça joue le jeu de l'autre côté. Alors c'est un peu compliqué parfois, mais on n'a pas de raté. Et on force personne à intervenir. Il y a des fois même des gens qui doivent prendre la parole au moment où je les appelle, et je m'en rappellerai toujours de cette fille qui m'a regardée, qui me fait « j'y arriverai pas ».
Comme à l'école.
Et en fait, elle pleurait toutes les larmes de son corps, elle est en train de marier sa sœur, elle n'en pouvait plus, et c'est pas grave, je venais de l'appeler, je venais d'expliquer ce qu'elle allait faire, et ben elle n'est pas venue, c'est pas grave.
Ça a suffi,
parce que sa réaction était tellement forte que tout le monde a été en empathie avec elle. Et c'est pas gênant. Le tout, c'est, voilà, comme je dis toujours à mes mariés, si vous me donnez 3 coordonnées, je vais peut-être être obligée d'insister un peu plus si on me dit je me sens pas.
Oui, voilà.
Si j'ai 5 ou 6 contacts et que j'en ai 1 ou 2 qui me disent non, finalement, je me sens pas, on est cool, quoi. On n'est pas non plus là pour avoir 14 interventions.
Alors, ce qui est juste important, c'est que l'intervenant comprenne où il met les pieds. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on rentre en contact avec lui, pour qu'il ne regrette pas. Une fois qu'on a expliqué, qu'on a posé le cadre, on est serein.
Et les mariés, est-ce qu'ils savent qui va... Parce qu'ils te donnent 6 contacts, par exemple. Est-ce qu'ils savent qui a dit oui, qui a dit non, qui va intervenir ? Est-ce qu'ils savent ou pas ?
En général, on essaye de leur réserver un maximum de surprises. Donc, sauf si vraiment, ils nous posent la question. Moi, j'ai des fois des mariés, parce que très souvent, les intervenants vont aller dire aussi aux mariés, franchement, elle m'a contacté, je me suis pas sentie, m'en veut pas. Parce qu'il y a toujours aussi ce côté est-ce que la mariée va pas m'en vouloir, etc. Donc, en général, on leur dit pas, sauf si y a ce cas de figure qui se présente. On essaye de leur réserver une surprise, de la même manière qu'on ne prévient pas les intervenants de l'ordre de passage.
Ah oui,
on aime bien les faire mariner un peu aussi.
Alors par contre, la seule chose que moi je demande aux mariés, c'est s'il y a un veto absolu. Parce que parfois, les témoins ou les parents, la famille va me dire « Oh là là, mais je suis sûr que cette personne adorerait intervenir. »
On évite ça.
Donc du coup, c'est la seule mauvaise surprise qu'on évite d'avoir. Donc du coup, on demande s'il y a un veto absolu.
Oui, parce que des fois, il y a des gens qui se manifestent pour intervenir.
Pendant la cérémonie. Alors, le pire, c'est pendant la cérémonie. C'est arrivé une ou deux fois, mais c'était souvent des grands-mères auxquelles on n'avait pas forcément demandé d'intervenir parce qu'on ne savait pas trop si elles se sentiraient physiquement ou autre. Et d'avoir la grand-mère qui vient te tirer par l'arrière de la robe pendant la cérémonie en disant « mais je voudrais tirer un petit quelque chose », tu ne peux pas dire non.
Ah bah oui.
Voilà. Mais voilà, on aime bien quand même maîtriser et éviter que tout le monde... Enfin, tu vois, on peut difficilement, dans une cérémonie, dire « est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ?»
Alors ça, ouais,
et ça, on nous le demande,
cette,
des fois.
Cette fameuse phrase « si quelqu'un a quelque chose à dire, qui se lève maintenant ou se taise à jamais. » Alors moi, je la sors jamais, parce que j'ai vraiment trop peur qu'il y ait un mec qui arrive avec un cheval blanc, tu vois, et qui kidnappe ma mariée. Et là, je crois que je serai en train de pleurer toute la larme de mon corps avec mon petit mari à côté de moi, tu vois.
Donc, on a parlé un peu des intervenants, et il y a un autre truc super important dans les cérémonies, c'est les rituels. Alors, déjà, pourquoi c'est important? Et moi, j'avais une question. Alors, je vous fais toutes les questions, vous allez me répondre après.
Vas-y, lâche-toi.
D'où ils sortent ces rituels? Parce que moi, tu vois, est-ce que vous les inventez? Est-ce que c'est des trucs qui existent? D'où ça sort tout ce bordel?
Alors, les rituels, c'est une grande histoire d'amour avec la cérémonie. Concrètement, il y a un rituel pendant la cérémonie qu'on retrouve dans 99% des cérémonies, c'est l'échange des alliances,
ouais, qui est quand même
le rituel en soi absolu, cérémonie d'engagement, alliance, symbole d'engagement absolu. Voilà, donc ça semble pas mal. Tout le reste des rituels, ils sont pas obligatoires et il y a une course aux rituels qui existe dans la cérémonie laïque, notamment engrangée et engendrée par les sites internet, par les blogs, etc., où on a besoin d'images, on a besoin de montrer son engagement. Donc pour montrer son engagement et son engagement physique, on est prêt à tout et n'importe quoi. Donc c'est très bien, parce qu'il y a des rituels qui sont très bien, il y en a d'autres qui n'ont pas de sens.
Le rituel du dromadaire.
Voilà. Hein. Donc il y a des rituels...
Mais encore, t'as pas vu le lâcher de poulet.
Donc concrètement, nous on est prêt à accepter qu'il y ait 2, 3 rituels, 4 rituels sur une cérémonie. Ça ne nous dérange en rien si... seulement ça a un sens et que le rituel arrive à un moment donné précis de la cérémonie et que ça amène quelque chose. Donc après, en termes de rituel, on va dire qu'il y a deux grands types de rituels. On a des rituels d'engagement qui permettent vraiment de marquer physiquement l'engagement des époux. Et on a des rituels qui sont plus des rituels participatifs, où on peut faire participer une partie de l'assemblée, voire la totalité de l'assemblée. Voilà, en gros, on a ces deux catégories. On a des rituels qui vont être un peu plus romantiques, des rituels qui vont être un petit peu plus fun, des rituels qui existent et en fait qui ont été récupérés, personnalisés pour faire en sorte que ça ressemble au marié, mais qu'à la base, ça soit quand même vraiment quelque chose qui se fasse réellement. Ça peut être quelque chose de religieux, quelque chose de traditionnel, des coutumes familiales. Et ensuite, il y a des rituels qu'on peut créer, oui, qu'on peut inventer, qu'on peut créer, parce qu'on se dit ça peut vraiment ressembler au marié. Concrètement, nous, ce qu'on a besoin de faire, d'où l'intérêt des questionnaires et des rendez-vous, c'est surtout de s'immiscer un petit peu dans la nature des mariés. Et c'est-à-dire, tiens, voilà, par exemple, tu as une origine particulière parce que tu es pakistanaise, par exemple. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que tu as, par exemple, des rituels traditionnels de mariage pakistanais que tu aurais peut-être envie d'intégrer au mariage? Si tu n'en as pas, est-ce que tu as des rituels familiaux qui se font? Est-ce que tu es au courant des derniers mariages que tu as vécu avec la famille? Des choses qu'on pourrait éventuellement intégrer. Et au-delà de ça, dans tous les cas, nous, c'est des choses qui nous titillent. Les rituels, quand on est officiant, c'est ce qui nous fait un peu vibrer aussi. Mais on a ce besoin d'aller se renseigner, d'aller chercher et d'aller plus au-delà de ce que tu vois. Et du coup, de se dire, tiens, c'est chouette, là, on a cette religion qui est présente. Waouh, qu'est-ce qu'on peut aménager pour que tous les invités puissent comprendre ce qui se passe? Et ça, c'est notre rôle en tant qu'officiant.
Dans le respect,
faire en sorte que tout le monde participe, que tout le monde comprenne. Parce que le risque, c'est vite de se retrouver dans des rituels où les gens sont complètement perdus. Et du coup, il n'y a plus d'intérêt pour les mariés d'avoir un rituel où les invités sont en train de s'endormir, où les invités ne comprennent pas.
Oui, ou que c'est un spectacle.
Ou que ce soit un spectacle qui n'a ni queue ni tête. Donc il faut qu'on arrive à condenser parfois des rituels qui peuvent durer une heure. Par exemple, chez les orthodoxes, t'as le rituel du front, qui est très complexe, qui est très long. Moi, des fois, j'ai des mariés arméniens, je leur dis, tiens, pourquoi pas faire le rituel du front? On va faire un rituel qui va peut-être durer 4 minutes plutôt qu'une heure. Donc je vais l'expliquer, je vais le coordonner. On va quand même respecter pas mal d'étapes et pas mal de lignes du rituel du front, mais parce que c'est important pour toi, pour ta famille, qui est quand même ce petit clin d'œil très respectueux. Pourquoi pas avec une musique, pourquoi pas avec une action physique de la part des parrains, marraines ou des parents. Enfin, voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est d'essayer d'aller vraiment piocher, d'aller à la recherche, que ce soit sur des livres, que ce soit sur Internet ou vraiment au creux des familles, et ensuite de pouvoir aménager quelque chose en quelques minutes qui soit compréhensible.
Ce qui est important de se dire par rapport au rituel, la première des choses, comme l'a dit Yas, c'est aucune obligation.
Oui, parce que tu peux ne pas en faire.
On peut ne pas en faire. Mais ce qui est surtout important, c'est de comprendre. En fait, l'être humain a besoin de rites. Le mariage, c'est un rite.
Oui, par définition. Oui.
Par définition. Il a besoin de marquer. Il a besoin de marquer les événements qui sont importants. C'est pour ça que, encore dans certaines cultures dans le monde, et qu'on avait nous aussi à un moment donné, qu'on perd un petit peu tout ce qui était passage, le passage à l'âge adulte, lorsque une fille devient femme, les mariages, que le petit garçon qui devient guerrier ou des choses comme ça. Il y a des rites de passage, des rites initiatiques, des rituels. L'homme est un être de rites. Donc on a besoin de marquer visuellement les choses qui sont importantes pour nous. Donc oui, on va se marier, c'est déjà un premier rite. On va utiliser les alliances, c'est déjà un second rite. Et ensuite, quel intérêt d'en avoir un autre ? Toute la question est là avec les mariés, parce que moi je vais avoir on va avoir des mariés qui vont nous dire « Ah non, nous on a vu... sur YouTube, dans les blogs, ça nous parle pas, le rituel du sable, moi pas l'intérêt. » Parce que tout ce qu'ils voient, ce sont des images, mais ils ne comprennent pas le sens.
Oui,
parce qu'il n'y a pas d'explication en amont.
Il n'y a pas de fond, quoi.
Voilà. Donc déjà, quelquefois, il peut arriver qu'on fasse changer d'avis un couple, parce qu'on va leur réexpliquer ce que c'est, et qu'ils vont peut-être trouver quelque chose qui... Ah ouais, ça me parle.
À partir du moment où ça
me plaît.
À se projeter d'un coup.
Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'aime. Ah ouais, les bougies. Ah, mais j'adore les bougies. J'ai toujours des bougies allumées chez moi. Ah ouais, donc du coup, le rituel de la lumière, il me parle. Et en plus, on fait participer des invités. Waouh, ça me parle. Donc, c'est ce côté-là aussi de faire comprendre. Et puis, tu vas avoir des mariés qui vont dire on aimerait bien faire quelque chose, mais en fait, il n'y a rien qui nous parle dans tout ce qu'on a vu. Et pourquoi pas, effectivement, créer son propre rituel, l'inventer. On a eu de la chance de vivre des rituels complètement fous et qui forcément ne seront pas reproduits parce que
oui,
c'était le rituel de ce couple-là.
C'était trop personnel, ouais.
Donc, il n'y a pas d'obligation à faire un rituel. Et si on en a envie, si on a besoin de marquer encore plus et peut-être plus au niveau d'une famille aussi, quand il y a des enfants, des rituels avec les enfants, les familles recomposées, des choses comme ça, c'est important aussi visualiser, inclure les enfants d'un second mariage, par exemple, pour pouvoir faire montrer visuellement la construction de cette famille aux yeux des autres.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, c'est une grosse discussion, le rituel, dans nos rendez-vous de création, parce que y a tout et n'importe quoi. Mais surtout, ne jamais faire un rituel parce que c'est la mode.
Oui,
parce que tout le monde le fait. Ouais, voilà, ouais. Déjà, 99% de nos mariés qui ont assisté à une cérémonie laïque vont nous dire « Je veux surtout pas faire le même que ma copine qui sera présente ou que ma sœur qui sera présente parce que sinon on va dire que j'ai copié. » Donc déjà, il n'y a pas d'intérêt.
Ouais, sûr.
Et ensuite, c'est pas intéressant de faire quelque chose juste parce qu'on l'a vu, parce que c'est joli ou parce que ça se fait. C'est comme aller se marier à l'église parce que ça fait joli.
Oui.
Ça n'a pas de sens. Donc, mettons du sens, et c'est pour ça qu'on fait des cérémonies personnalisées, c'est pour donner du sens à l'engagement des mariés. S'ils veulent un rituel, s'il y a quelque chose qui leur fait du sens, on va y aller, on va faire un truc, et tout le monde va trouver ça génial.
Donc là, on a vu la partie cérémonie laïque, construction, tout ça. Cérémonie d'engagement, pardon, je vais y arriver.
Et, j'ai failli partir.
mais non.
Et là d'un point de vue plutôt pratique, le jour du mariage, au niveau de la cérémonie, vous faites quoi ? L'arche, la déco, les chaises, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites ? Ou est-ce que vous arrivez juste les mains dans les poches et salut, c'est moi, quoi ?
Alors, théoriquement, on est officiant. On a la casquette d'officiant.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que je viens avec ma cérémonie et je fais ma cérémonie. Je coordonne ma cérémonie, c'est-à-dire que je vais accueillir les mariés. Mais effectivement, je n'ai pas la casquette de décorateur ou de logistique. Sauf si, en amont, il y a eu des choses qui ont été vues avec les mariés, notamment par rapport à l'installation des chaises.
Oui, parce que je vous ai
dit toujours un grand problème.
C'est
toujours un grand problème l'installation des chaises. On ne sait jamais qui installe. Donc ça, c'est vraiment important pour les mariés qui nous écoutent. Vérifiez toujours qui installe les chaises avant. Ça peut être l'officiant, mais il faut en parler avant. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve tous comme des ronds de flanc à se regarder avec des chaises comme ça en disant qui les fait. Non, il faut le faire avant. Et surtout, avant que je te laisse la parole, on a une casquette, on a un métier. Il y a des gens qui font très bien les métiers de décoration. Donc, très bien que nos mariés, qui font très souvent appel à un décorateur ou un floriste pour le reste de la réception, bah, continuent sur la cérémonie.
Oui, bah, t'as quasiment tout dit. Merci. Non, mais concrètement, je pense que l'officiant, à la base, il a un contrat, c'est de créer la cérémonie et d'être officiant. Ensuite, la logistique en soi, tout va dépendre de l'entourage du mariage. Aujourd'hui, ça peut être effectivement une corde en plus pour chaque officiant de dire ben, « je peux faire de la décoration, je peux sonoriser, faire ci, je peux faire ça » comme on a tous fait.
Et parce que je vous ai déjà vu quand même placer pas mal de chaises.
Alors, les chaises, c'est encore un peu différent.
Et parce qu'en plus, il faut savoir les placer, les chaises. Parce que moi, c'est un truc...
C'est tout un art de placer les chaises.
Si tu veux les placer en demi-cercle ou quoi, c'est compliqué. Voilà,
tu fais appel à Yacine.
Moi, je suis un grand psychopathe et je sais que les traiteurs et les décorateurs, quand ils me voient arriver sur une cérémonie, ils prennent peur et disent « oh non, c'est Yacine, il va falloir qu'on rebouge tout ». Et en général, on rebouge tout parce que j'aime pas et que j'ai absolument ce besoin crucial que tout soit carré au millimètre, etc., pour que les mariés soient contents, pour que les photos soient magnifiques et pas des choses larguées un petit peu n'importe où, sauf si c'est le thème du mariage. Bon, ça c'est encore autre chose.
Il y a des thèmes largués.
Ouais, des thèmes.
Ça pourrait être intéressant.
Tranquille, ouais, posé. Pouf,
j'ai posé. Tout.
Ah, bon, mais concrètement, nous, depuis quelques années, on a pris le parti de dire que on peut s'occuper de la logistique si vraiment les mariés nous le demandent, mais on pousse cette logistique vers les prestataires en adéquation. La sonorisation, on en a, mais on préfère que ce soit le DJ qui s'en occupe parce que c'est son métier et que je ne suis pas DJ, j'ai pas fait d'études pour être DJ et que du coup, bah, c'est pas cool que bah, on prenne quelque part
une
prestation de haut DJ, tout comme sur la décoration, on a fait des très très jolies décorations de cérémonie, mais il y a des décorateurs,
il y a
des fleuristes qui sont là pour ça, et quelque part ça permet aussi au mariage d'avoir une unité entre la cérémonie, entre le cocktail, entre la soirée, le bouquet, avec les mêmes fleurs, avec la même histoire qui se raconte, c'est tellement important. Donc on peut le faire dans des cas exceptionnels, quand les mariés nous disent « j'ai pas de décorateur » ou « je fais ça dans un champ, donc le DJ, ça l'amuse pas en fait ». De venir dans un champ avec sa sonorisation.
Il n'est pas très chaud.
Puisqu'il n'est pas très chaud, en fait.
Parce qu'il n'y a pas de prise.
Donc on peut le faire. Donc, on peut tout faire. Mais aujourd'hui, on se cantonne vraiment à notre métier. Parce que ça, on sait vraiment le faire. Et ça, c'est ce qu'on aime vraiment faire.
Oui, le reste, c'est du super. Ouais, c'est du plus. Et vous faites des. Vous allez systématiquement sur le lieu de réception avant quand. À part si vous connaissez le lieu de réception, peut-être, mais est-ce qu'il y a
même
besoin...
si on connaît le lieu. Même si on connaît le lieu, on va systématiquement avant.
Avec
toujours,
les mariés pour
avec
se projeter.
Il y a un besoin crucial. Pour les mariés, plus que pour nous, quand on connaît le lieu. Après, quand on connaît pas le lieu, évidemment, faut qu'on y aille. Mais il y a un besoin crucial pour les mariés de se projeter. Et nous, on aime être ce jour-là où on se projette à peu près à la même heure que la cérémonie, pour justement s'imaginer. Et puis on les projette, on leur dit « tiens, tu vas arriver comme ça, par ici, la cérémonie elle va être positionnée comme ça ». Parce qu'on a cet œil professionnel qui permet, par rapport à la lumière, par rapport aux photos, parce que des fois les mariés me disent « oh, on va se mettre là, ouais, t'as vu derrière ? Ah ouais, c'est pas très beau ». Ben voilà, donc on va peut-être pas se mettre là. Donc voilà, on a ce travail en amont. De pas être intégralement, par exemple, qu'il n'y ait pas un marié à l'ombre et un marié au soleil.
Oh, merci. Ah, merci. Voilà.
J'attendais
cette
réaction.
On essaie de penser à ces détails.
c'est des détails, mais c'est vachement important.
Mais des fois, c'est des choses qu'on va corriger le jour J, parce que quand on a visité, on n'était pas sur le même horaire ou n'importe quoi,
à
la même saison.
Ouais, bien sûr.
Donc forcément, on va peut-être corriger le jour J en disant « ah non, finalement, on les avait mis là, mais non, on va les mettre de ce côté ». Bon, on va pas tout chambouler, l'arche, etc., mais... On va essayer de faire au mieux. Il est évident, par contre, que lorsqu'on a une cérémonie qui se déroule à quelques centaines de kilomètres de chez nous, ça va être compliqué d'aller faire une visite technique. Hein, je veux dire, quand j'ai fait une cérémonie à La Réunion, je ne suis pas partie faire une visite technique en amont quand même. Hein.
Ça manque de professionnalité.
Elle n'est pas sous.
Disons que je suis sûre que mes maris auraient été ravis de me voir un peu plus tôt, mais bon, c'était un peu compliqué logistiquement parlant, là, pour le coup. Non, mais voilà, on essaye au maximum de faire en sorte que tout soit... parce que les mariés, ils ont envie de se projeter, ils ont besoin de contrôler. Il y a des mariés qui sont très contrôle fric comme ça et qui veulent absolument tout gérer, tout savoir. Et donc, c'est déjà très compliqué de les faire lâcher par rapport à la cérémonie. Donc on essaie effectivement de les rassurer au maximum, en harmonie avec tous les autres prestataires qui seront là-bas aussi. Quoi.
Et puis pour prévoir peut-être un plan B aussi.
Ah, toujours le plan B, ça c'est obligatoire, c'est même avant de commencer quoi que ce soit.
Mais quand on se projette le jour J du coup, quand on se projette le jour du rendez-vous, justement sur place, ça permet aussi de
dire... Tu vois mieux le plan B, oui.
Et quand il y a un plan B, le stress disparaît.
Ah oui.
Une cérémonie, ça doit durer combien de temps? Question bête, hein, mais...
Le temps nécessaire.
En moyenne, on est sur 45 minutes, 1 heure. C'est une moyenne. Il y a des cérémonies qui vont durer 40 minutes, il y a des cérémonies qui vont durer 1 heure et demie. Ça va durer en fonction du nombre d'intervenants, la durée de chaque intervention. Si j'ai 2 personnes qui parlent 10 minutes chacune, ou si j'en ai 4 qui vont parler 5 minutes, bon, bah, y a plus de mouvement dans la seconde. Et tu vois, la durée, c'est très subjectif. Mais en moyenne, on va rester autour de 45 minutes, 1 heure.
Et je dis souvent que à mes mariés qui s'inquiètent, parce que souvent quand on leur dit 1 heure, on se dit oh,
mais parce qu'ils pensent à 1 heure à l'église.
Mais on va s'ennuyer, il y en a qui vont s'endormir.
Ils ont vécu des cérémonies religieuses, c'est pour ça à l'église. Ouais.
Et en fait, on est dans un moment qui est tellement personnalisé, où on parle que de eux, où déjà, d'une façon géographique, les mariés ne tournent pas le dos aux invités.
Ouais. Ça, c'est rédhibitoire.
Voilà, je le redis bien fort. Dans 100% des cérémonies, les mariés ne tournent pas le dos aux invités.
Merci.
Voilà, c'est fait.
Voilà.
Voilà. Parce que sinon, on perd la notion de partage, on perd la notion d'engagement. Enfin, c'est dramatique. Donc vraiment, à partir du moment où on vit la cérémonie, le temps passe à une vitesse complètement folle. C'est aussi pour ça que c'est plus intéressant d'avoir 4 interventions de 5 minutes plutôt que de 10, puisqu'on le sait, en général, on perd un peu l'attention au bout de 3 à 4 minutes. Donc il faut plutôt essayer de faire en sorte que chaque moment clé qui s'emboîte l'un dans l'autre dure moins de 4 minutes. Voilà, ça, c'est vraiment l'idéal. Après, la cérémonie, elle se moule naturellement aux mariés. Des mariés plutôt timides, dans la construction, dans ce qui va se passer, on va plus être sur du 45-50 minutes. Et parfois, moi, je me rappelle toujours cet exemple fabuleux où la mariée avait 8 sœurs et le marié 5 frères et sœurs, que tout le monde voulait parler.
Tout le monde, seul, pas en groupe.
Impossible de faire une intervention groupée. Chacun avait son mot à dire. La cérémonie qui a duré 1h45. Mais en fait, si elle avait duré 5 minutes de moins, ça aurait été catastrophique pour la famille. Parce que finalement, il y avait peut-être José qui n'aurait peut-être pas parlé, et ben ça aurait été une catastrophe. Et en fait, ils se sont retrouvés dans ce timing, ils n'ont pas vu le temps passer. C'est d'ailleurs des repas qui commencent à 11h le midi et qui terminent, on ne sait jamais quand est-ce que ça termine.
Parce qu'ils recommencent avec l'apéro du soir, en fait.
Voilà. Et en fait, cette cérémonie, elle a été complètement à leur image. Moi, j'ai peut-être trouvé ça long, mais en fait, ça ne me regarde pas.
Et puis, c'est vrai que c'est très subjectif. À partir du moment où tout s'enchaîne bien, moi je dis souvent, ce sont des montagnes russes émotionnelles. Des fois, tu regardes un manège de loin, tu dis « Mon Dieu, il y en a pour une éternité, si je vais le sentir. » Et en fait, quand tu es dans le manège, tu pars tellement dans tous les sens émotionnellement parlant qu'il dure 3 minutes. Souvent, on a des mariés, 1h30 de cérémonie, et quand on leur dit que c'est fini, ils nous regardent et ils font « Bah déjà ?» Bah ouais, mais parce qu'en fait, t'as suspendu le temps pendant la cérémonie. Ils en ont pris plein la gueule émotionnellement parlant. Il y a eu énormément de passages. Tous les réservoirs affectifs de toutes les personnes présentes, et je dis bien toutes les personnes, parce que même les prestataires, combien de fois j'ai vu des vidéastes ou des photographes être complètement pris par ce qui était dit et en oublier de shooter. c'est tout le monde remplit son réservoir affectif parce qu'il y a vraiment un débordement d'émotions, d'amour qui passe à ce moment-là, que le temps semble s'être arrêté et que... Nous, notre cérémonie de mariage, elle a duré 2h20. Bon, on garde le record, je vous rassure, on ne fera pas. Mais on avait 17 interventions. J'ai cru qu'elle avait duré 1h40.
Bon, mais il y avait Joss aussi.
Non, on avait 17 interventions.
Ah, bisou, mais... Joss, bisous et le rideau, bravo.
Non, mais 17 interventions, je te laisse imaginer. Je veux dire, voilà. Bon, ouais, après, c'était exceptionnel, ça le restera. Mm-hmm. On n'essaye pas. Nous, après, on module aussi notre temps de parole en fonction du nombre d'interventions et de la durée de chaque intervention. On va plus ou moins parler, on va être plus ou moins présent. S'il y a beaucoup de gens qui parlent, on va se faire beaucoup plus discret parce que c'est pas notre moment, c'est le moment des mariés. On n'est pas là pour faire un show, c'est pas nous qu'on met en avant, ce sont les mariés. Donc nous, on est juste cette petite touche de crème que tu rajoutes dans la sauce pour lier le tout.
Ce qui est super, super important, c'est que sans nous lancer des fleurs, mais un petit peu quand même,
ça fait du bien.
Une heure, ça peut être long. Mais si la cérémonie est bien montée et qu'elle est bien officiée, ça passe... en un clin d'œil.
Ah oui.
D'où l'intérêt de connaître les choses avant.
Exactement.
Obligé.
Et est-ce qu'en 2020, les gens sont encore surpris d'une cérémonie laïque?
Oui. Bien sûr.
Moi, je me rends pas compte, mais.
Moi, je me rends compte que les gens ne connaissent pas tous la cérémonie. Alors, peut-être qu'ils en ont entendu parler de plus en plus, puisque, effectivement, il y a les médias qui commencent à en parler. On est passé sur France 2, au journal de 20h, il y a 2-3 ans. On parle de plus en plus des cérémonies, mais c'est vrai que les gens n'en ont pas forcément vécu. Et même quand ils en ont vécu, aujourd'hui, il y a encore 70% des cérémonies qui sont officiées par des proches. Et quand on tombe sur un officiant professionnel et un bon officiant professionnel, d'un coup, on se dit, ah ouais, mais en fait, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu avant, quoi.
Et comme de toute façon, chaque fois, c'est une nouveauté, puisque c'est une nouvelle histoire qu'on va raconter. Donc, forcément, 99% des personnes qui sont présentes à une cérémonie, c'est très souvent une première pour elles.
Je me rappelle il y a 3-4 ans, je vois un invité qui vient vers moi, c'était fin de l'été. Il me dit, oh là, bravo, franchement, félicitations, c'est génial. Je dis, bah, écoutez, merci, sympa, etc. Il me dit, mais quand même, waouh, c'est la troisième cérémonie que je vois cet été, franchement, fantastique, quoi. Je fais, bah, écoutez, merci, je sais pas comment s'est passé les autres, mais c'est chouette. Il me dit, non, mais franchement, les autres, elles étaient géniales aussi, hein. Mais franchement, écoutez, tant mieux. Il me dit, mais j'ai vu 3 cérémonies, c'était 3 fois vous.
Alors ça, c'est exceptionnel.
C'était 3 fois moi. Il me dit, ouais, mais il n'y en a pas une identique, quoi. C'est hallucinant, quoi. Je suis en train de rêver. Je veux dire, c'est 3 cérémonies, mais 3 cérémonies différentes. Là, j'ai fait, ah ouais. J'avais pas compris que c'était ça, en fait, ta question.
Bah, après, c'est tout l'objet d'une cérémonie. Si tu fais juste un copier-coller, c'est nul.
Non, c'est pas le but. Mais c'est vrai que c'est très rare qu'on tombe quand même sur des personnes qui ont assisté à des cérémonies qu'on a déjà officiées. Ça nous arrive quelques fois. 3 fois dans la même saison, c'est exceptionnel, hein, faut le dire. Parce que ça veut champion. Dire que cette personne connaît beaucoup de monde et est invitée à beaucoup de mariages aussi.
Qui s'est incrusté 3 fois.
Ou alors, voilà, il nous a suivis, en fait. Non, mais voilà, c'est vrai que, évidemment, que c'était pas les mêmes cérémonies parce que c'est pas les mêmes personnes qui ont été mariées. Donc, c'était pas les mêmes histoires.
C'est pas les mêmes émotions.
Et voilà, donc c'est à chaque fois, c'est différent.
Et comment on arrive à faire passer des émotions après 650 cérémonies? Comment on arrive à pas être blasé?
Justement, parce qu'à chaque fois, c'est des nouvelles histoires, des nouvelles rencontres, des nouvelles passions, des nouvelles familles, des nouvelles amitiés que tu vas mettre en valeur, des choses qui... des personnalités. Tu vois, j'ai encore une cérémonie qui va arriver le 7 décembre. C'est une cérémonie qui a été signée assez tardivement, parce que ça doit faire un mois qu'on a signé. C'était une cérémonie dans le style... nous, on a prévu que la mairie, et le photographe leur a dit « ce serait sympa que vous fassiez une cérémonie, parce qu'entre 14h et 19h, ça va faire un peu long. »
On va se faire un peu chier.
Et en même temps, on s'est rencontrés, et c'est un couple... Moi, ils me font triper. Je kiffe d'avance leur cérémonie parce que quand on a fait déjà en termes de personnalité, ils sont géniaux. Mais quand on a fait le rendez-vous de création, j'avais déjà les mouchoirs sur la table. En fait, c'était déjà en train de se projeter et de pleurer à l'avance en imaginant ce qui allait se passer. Et je peux te dire que ce qu'ils imaginent, c'est même pas la partie émergée de l'iceberg, quoi. Je veux dire, ce qu'ils vont vivre le jour J, c'est puissance 1000. Et ça, quand tu rencontres des couples. Et c'est aussi pour ça qu'on continue ce métier, c'est aussi pour ça qu'on accepte de faire des cérémonies, parce qu'aujourd'hui on peut se permettre aussi de refuser un couple si on n'a pas cette sensation de pouvoir créer quelque chose de nouveau encore.
Et puis je pense que si on n'a plus en nous cette émotion,
on change de métier.
Ça sera le moment d'arrêter, quoi. Mais moi je sais qu'aujourd'hui je tripe toujours autant, et voilà, comme Christelle, hein, il y a quelques jours j'ai fait une cérémonie avec Oriane, qui est en train de pleurer pendant tout le long des préparatifs. Waouh, ben voilà, ça me donne envie de pleurer aussi. Et puis je sais que le jour J, on va tous pleurer, quoi. Voilà, mais c'est comme ça.
Et puis toi, t'as l'arme facile, donc.
Je vois pas de quoi tu parles.
Non, c'est des allergies.
Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Ça. Pardon. Faut te faire traiter d'ailleurs.
Ouais, il faudrait qu'il prenne le traitement, je pense.
Prendre l'homéopathie, faire un truc, parce que ça va pas du tout.
À l'année.
Attends, ma question, elle est là. Donc, ouais. Donc, vous avez quand même une certaine intimité avec les mariés. Mais une fois que la cérémonie, elle est passée, c'est fini. Alors que vous êtes quand même rentré dans l'intimité du couple, est-ce que vous les revoyez? Est-ce qu'il se passe un truc après? Parce que ça fait beaucoup de charge émotionnelle pour, c'est fini.
C'est la partie la plus ingrate. Là, t'as mis le doigt dessus. C'est vraiment la partie la plus ingrate. Parce que quand on s'investit émotionnellement avec des mariés pendant des mois et des mois, qu'on prépare leur mariage, qu'on est super proche avec eux, malheureusement, quasiment du jour au lendemain, on est obligé de faire une espèce de blackout et de se dire, bon, allez, j'ai cette émotion, je la garde au fond de moi ou je l'ai un petit peu lâchée et je suis obligé de passer à autre chose parce que dans quelques jours, j'ai une autre cérémonie, j'ai un autre couple, donc je suis obligé de mettre une espèce de barrière. Donc c'est vrai que une fois que la cérémonie est passée, quasiment de tout l'été, je fais une espèce de blackout avec mes mariés parce que je suis obligé d'avancer. tu peux pas rester sur ça. Des fois, j'aimerais dire, bon, c'est bon, le temps s'arrête, j'arrête tout, maintenant je reste avec ces petits mariés, ça va devenir des amis, on va devenir les meilleurs amis du monde, ça va être fabuleux. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on a une vie, c'est pas possible parce qu'on a des amis autres que le mariage, si, si. On a beaucoup d'amis du mariage, si, si. On a quelques mariés, heureusement. Enfin, heureusement, c'est même pas heureusement, c'est que on a des mariés qui aujourd'hui sont encore très, 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 très proches de nous, un peu trop, même parfois certains. Seb, n'est-ce pas? Dada, on vous embrasse. Donc, on arrive à créer du lien amical avec certains mariés. On aimerait le faire avec tous, mais c'est juste improbable.
Ah, t'imagines, c'est improbable 650 en termes de timing.
T'as pas 650 amis fois deux.
J'ai pas 650 week-ends. On a des enfants, et puis on a des mariages de l'année d'après à préparer, et puis des années d'après d'après à préparer. Donc, ce qui fait qu'on a malheureusement le temps ne se multiplie pas, et on est obligé d'avoir un recul. Alors, on n'est pas obligé de couper les ponts et de plus jamais se parler non plus, hein. Mais certains avec qui on va garder quelque chose de très profond, même si on se voit pas. Et je sais qu'à chaque fois que je revois certains de mes mariés, il y a tout qui remonte et on se jette dans les bras et on se fait plein de câlins, plein de bisous et on se rappelle plein de moments extraordinaires et c'est comme si on s'était quitté la veille. D'autres avec qui, ben, malheureusement, on prend un peu plus de recul, ne serait-ce que par rapport à la distance. Hein,
et puis c'est la vie. Enfin, c'est
et
la
puis
vie.
C'est la vie. À un moment donné, on peut pas non plus. Voilà, mais c'est vraiment le plus ingrat. Là, c'est
t'as la magie aussi aujourd'hui de la technologie, des réseaux sociaux qui permettent aussi de conserver un lien avec nos mariés. Ceux qui le souhaitent en tout cas, parce que c'est aussi ça, c'est que aussi ils ont leur vie, ils reprennent le cours de leur vie. On est venu créer de la magie dans leur univers pendant une journée, pendant des mois à préparer avec eux. Il y a certains qui vont nous garder toujours dans un coin de leur tête et dans un coin de leur cœur, surtout quand tu as le plaisir de recevoir un faire-part de naissance quelques années après un mariage. Waouh, ça fait voilà, c'est très émouvant. Moi, j'ai eu le bonheur d'être informée en tout premier de la naissance d'un futur enfant pour mon couple un de mes couples que j'avais fait. Je veux dire, il y a des création de liens qui se font, qui sont plus intenses que d'autres, mais c'est comme dans toute relation humaine. Et avec les réseaux sociaux, on garde du lien, on se fait des coucous, ils peuvent nous suivre. Moi, j'ai eu le plaisir d'être quasi devenu un officiant de famille ouais. Parce que j'ai marié un couple et puis l'année d'après j'ai fait le parrainage du petit qui était dans le ventre de ma mariée le jour de la cérémonie et puis l'année suivante, eh ben, j'ai marié le frangin de mon marié et c'est étonnant, c'est fort à vivre parce que voilà, c'est des moments très intimes.
De la famille, quoi.
Voilà, et puis tu vas avoir des couples avec lesquels tu as eu un lien très très fort, et puis il y a la vie. Il y a la vie, oui, tout simplement, sûr. Qui reprend ses droits, et ça veut pas dire qu'on t'oublie, mais en même temps, on n'a pas non plus la capacité d'avoir plus de 1200 amis supplémentaires.
Ce qui est sûr, c'est que si eux, ils pensent à nous, quand ils repensent à leur cérémonie ou quand ils voient leurs photos et qu'ils se remémorent un peu toutes ces émotions, ce qui est certain, c'est que nous, on pense à eux.
C'est beau.
Non, mais c'est vrai parce
mais
que
c'est vrai.
Moi, chaque fois, tu vois, il y a les albums, il y a les photos, il y a les trucs, il y a les. Et à chaque fois que je croise une mariée sur un réseau social, chaque fois, j'ai plein de flashs qui viennent. Et... Ah ouais, mais c'est vrai en plus. Il y a plein de mariés, je me dis punaise, tu vois, ça fait 2 ans, je ne l'ai pas recontacté et je m'en
le
veux.
Temps
mais,
passe vite.
Je m'en veux,
le
mais
temps
ça,
passe
ça
trop vite.
C'est trop folle et c'est. Voilà. En tout cas, on pense à vous.
Et là, vous ne voyez pas Yacine, mais il est au bord de l'allergie.
Attends, on va lui sortir un mouchoir.
On est au bord de l'allergie. Est-ce que vous créez des cérémonies où vous n'officiez pas? Il me semble pas, mais je sais pas. Je vous pose la question parce qu'il me semble pas, mais peut-être que oui.
Alors,
c'est un vaste sujet, ça. En fait, concrètement, je vais le prendre parce que ça m'est arrivé à moi plus que toi. Donc c'est pour
c'est
moi.
Vrai.
C'est pour
moi.
On n'a pas 8 heures, hein, donc.
On n'a pas 8 heures. Je fais vite. En gros, ça a été au départ de notre commercialisation sur la cérémonie AX, c'était des options qui étaient envisagées de se dire, bah tiens, et si on créait des cérémonies, mais que c'était pas nous? Et l'inverse, ah bah tiens, et si la mariée qui a une super plume écrit la cérémonie et que c'est nous qui officions?
Là je le vois mal, là, voilà. Par contre.
Donc du coup, on a eu ces deux formules. On les a gardées quelques semaines.
On n'en a pas fait beaucoup.
Et on a interdit absolu. Alors pourquoi? Pour de très bonnes raisons, c'est que quand tu crées une cérémonie et que tu n'officies pas, bah déjà, tu sais pas ce que ça va rendre. Parce que tu sais pas qui va officier. Donc déjà, ça peut être un proche, par exemple, qui va... souvent, il y a un tonton. Hein, le tonton, il parle bien en public. Ok, super. Donc déjà,
Et il se décompose quand il arrive devant 100 personnes.
Et il se décompose littéralement.
Ou alors, il n'arrive pas à lire le texte qui est écrit. Et toutes les 5 secondes, il dit « Ah, mais c'est pas moi, c'est Yacine. Ah, bah ouais, mais là, c'est pas... » Alors, parce que les mots, il les connaît pas.
Donc du coup, et puis au-delà de ça, il y a ce côté éthique, c'est-à-dire que je vais créer pendant des mois et des mois un lien avec mes mariés, et le jour J, je suis pas là.
Ah, c'est la loose.
Attends, je vais préparer un gâteau d'anthologie et je le mange pas. Non, mais c'est même pas en rêve.
Mais ça,
non,
ça, les pâtissiers font ça, par contre.
Ouais, mais non, mais moi, je suis pas. Mais je suis pas pâtissier. Je suis Obélix, elle l'a dit tout à l'heure. Non, mais voilà. Donc concrètement, pour moi, d'une façon éthique, on ne peut pas créer une cérémonie et ne pas l'officier, même si c'est un autre officiant, ce n'est pas possible. Voilà. Ou alors, c'est un acteur. Et nous, dans notre vision de la cérémonie, on n'est pas des acteurs. On est là pour voilà, pour enfin, c'est pas notre rôle.
À partir du moment où tu crées du lien avec tes mariés, que tu vas apprendre à les connaître, que tu vas écrire leur histoire, ne pas officier le jour J et donc donner ton texte tel quel à quelqu'un qui en plus donc le découvre le jour J, parce que prendre une personne, la mettre avec toi dans les rendez-vous, la former, la coacher, je veux dire, c'est du double boulot, mine de rien, pour nous.
Oui, hein.
Ça prend un temps de dingue. La personne, elle n'a pas les compétences forcément pour mener la danse comme il faut. Donc on forme un officiant.
Pour moi, on fait ça très bien. Les mariés te disient « Ouais, mais si c'est pas vous le jour J, il y a au moins 50% de moins. » Ouais, je t'explique que je viens de former un officiant, et qu'on a perdu deux fois plus de temps, entre guillemets.
C'est très compliqué. On sait qu'il y a des confrères et des consœurs qui pratiquent encore et qui
aiment ça. Ah non, mais de toute façon, on n'est pas là pour taper sur quelqu'un. Je vous demande votre
mais nous, c'est vrai que nous, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que, voilà, humainement parlant, c'est extrêmement frustrant. Et ensuite, pour être très clair, il y a notre image derrière aussi, même si c'est notre texte. Si la personne ne le vit pas de notre manière, ne l'exprime pas de notre manière, ou fait comme j'avais vu un jour, parce que je faisais la sono sur cette cérémonie, qui avait été écrite par Yacine et officiée par une autre personne qui, toutes les 5 secondes, n'arrêtait pas de dire, n'arrivait pas à lire ce qui était écrit, ne comprenait pas les mots qui étaient utilisés.
Enfin, il n'est pas allé en CP.
C'était un peu compliqué.
Oui, parce que c'était du français.
C'était très, très compliqué pour lui. En fait, il lisait un texte qui ne s'était pas approprié, donc c'était très compliqué. Il n'avait pas la tonalité qu'il fallait, donc il n'était pas dedans du tout. Et mine de rien, notre image peut en pâtir aussi, parce que
quand ça se passe bien, on va aller voir l'officiant, on va lui dire waouh, c'était génial la cérémonie, ouais, merci. Voilà, ça se passe bien, mais jamais on citera de maintenant. Quand ça se passe mal, oh là, c'était nul, hein. Ouais, tu sais, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est à de maintenant. Et là, tu fais ah oui, d'accord, merci.
Ouais.
C'est compliqué. Et bon, ce qui m'avait rassuré ce jour-là, c'est que j'avais un couple de futurs mariés dans l'assistance qui est venu me voir et qui m'ont dit « Non, mais c'est très bien qu'on ait choisi de passer par toi et pas par un proche, en fait, hein, parce que... »
Au moins, ça a réglé le problème.
Ça, là, c'était... Mais c'est vrai que, bon, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué et nous, on préfère éviter ce genre de choses.
Donc, tout à l'heure, vous me parliez de... Quand c'est quelqu'un qui intervient, c'est vous formez un officiant. Mais alors, du coup, vous faites des formations ou pas?
Alors oui, on a fait des formations, on a fait des workshops. On a fait une petite pause, le temps de tout mettre au propre et de devenir organisme de formation, ce qui a été fait. Et à partir du mois de mars de l'année prochaine, on va relancer les sessions de formation pour officiants et pour organisateurs de mariage.
Bon, on en reparlera d'ici là, mais
toutes les infos seront sur notre site et on pourra en reparler.
Mais bon, en tout cas, si quelqu'un a écouté cette interview et qui trouve ça intéressant...
Ce qui m'étonnerait.
Non, pas toi en tout cas, mais Christelle, si Christelle...
Merci.
Voilà, voilà, vous savez que ça, c'est possible. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer en tant qu'officiant de cérémonie aujourd'hui?
De faire une formation avec nous.
Voilà, mais à part ça...
Non, franchement, à part ça, de suivre une formation, vraiment, parce que c'est un vrai métier.
Ah non, mais ça, qu'on soit un vrai métier, on est d'accord.
Et qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte sur ce métier qui a l'air... Alors moi, je rigole parce que j'ai des prestataires, non, rien qu'on connaît bien, qui dit que je suis un vrai baratineur et que mon métier, c'est que de parler. C'est vrai que je parle beaucoup, mais à côté de ça, il y a tellement de paramètres entre le côté commercial, le côté gestion d'entreprise, entre les services. Enfin, il y a beaucoup de choses à apprendre sur la disponibilité, parce que c'est un métier où on est tout le temps sollicité.
Et à mon avis, ton taux horaire n'est pas terrible.
Mon taux horaire n'est pas terrible, parce que le soir, les week-ends, les ci, les ça, enfin, il y a beaucoup de sacrifices en termes de temps. Enfin, voilà, ça prend énormément de temps. Et puis, la créativité, la capacité orale de pouvoir s'exprimer et de pouvoir maintenir vraiment une assistance comme pendant plusieurs minutes, voire pendant des heures. La créativité par rapport au texte, par rapport à des rituels dont tu parlais tout à l'heure, mais même par rapport à l'écriture. Enfin, c'est vraiment un métier qui est vraiment vraiment complet. Donc, sans formation, ça me semble improbable.
Disons que ça peut sembler facile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que notre boulot, c'est d'être payé à parler pendant une heure. Sauf qu'il y a évidemment toutes les dizaines et dizaines et dizaines d'heures en amont qui sont mises en place et pendant lesquelles on bosse. Oui, on bosse vraiment. Et donc aujourd'hui, on trouve énormément d'informations sur la cérémonie laïque sur Internet. On trouve des exemples de cérémonies. On peut faire un copier-coller et changer juste les prénoms des mariés. Ça va fonctionner un temps. Après, on ne va pas y vivre comme ça. Voilà, donc... Si on a des compétences, si on a des envies, si on aime écrire, si on aime parler, etc., ça peut être un bon complément d'activité, ça peut être un métier intéressant, mais il faut effectivement s'orienter sur une formation, quelle qu'elle soit. La meilleure, c'est la nôtre, évidemment. Mais
bien
bon,
sûr, bien sûr.
Voilà, après, vous êtes libre d'aller ailleurs. Mais dans tous les cas, c'est quand même important de comprendre l'éthique parce que c'est un moment extrêmement important dans la vie d'un couple. Le mariage est une journée énorme. Il y a un budget derrière. Les gens, ils n'ont pas envie de mettre de l'argent par les fenêtres. Ils n'ont pas envie d'être déçus. On a des retours des fois sur des anecdotes que vont nous raconter des futurs mariés qui ont assisté à une cérémonie ou des prestataires qui ont assisté à des cérémonies. Et franchement, on en entend des trucs, des vertes et des pas mûres que bonjour l'angoisse. À un moment donné, on aimerait bien. On a cette envie d'avoir quelque chose où les officiants sont des personnes qui respectent une éthique et qui sont dans quelque chose qui accompagne les mariés
et que le métier se professionnalise.
Avec le cœur et une professionnalisation du métier.
On arrive au bout de cette émission. Merci Christelle, merci Yacine d'avoir répondu à mes nombreuses questions.
Un grand merci.
Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les applications de podcast et aussi sur weddingpodcast.fr. Je vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook où il y a pas mal d'informations, où je pose des questions parfois pour savoir les prochains sujets, tout ça, ce qui peut vous intéresser. Donc je vous invite vraiment à y aller si ça vous intéresse. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez mettre une petite note sur iTunes, ça m'aide pas mal à faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission.